Guy Boucher m'a, hier, en me parlant, c'est-tu hier? Oui, hier, il me parlait à un moment donné, tu sais, en jasant d'une recomposition possible de la défensive ou d'un ajout de deux joueurs. Ça fait longtemps que moi, j'aime Chris Letang. J'aurais même aimé ça qu'on lui fasse une place au sein des équipes canadiennes. Il a joué pour Équipe Canada Junior. J'aurais aimé ça qu'il joue pour Équipe Canada à la Coupe du Monde à Toronto, notamment. Mais il y a beaucoup de bons défenseurs au Canada. Il n'y avait pas de place. C'est sûr qu'il ne rajeunit pas, mais ça m'a amené à regarder la liste des joueurs autonomes de 2022. Tranquillement, on commence à regarder ça. Guy, avec nous au bout du fil. Bonsoir, Guy.
Bonsoir.
Guy, je regarde ça, là. C'est sûr que c'est pas toutes des jeunesses, mais toutes positions confondues, Malkin, Subban, Giroux, Kessel, Le Temps, Fleury, Pavelski, Bergeron, Kessler, il a cessé, mais Giordano, Gaudreau, Radulov qui termine son contrat. On disait que ça allait être un contrat qui allait être trop long. Il finit cette année à Dallas. Je veux dire, y a-tu des noms qui t'allument là-dedans? Il y en a même plus loin sur la liste. Peut-être des gars qui ont été moins des stars, mais des joueurs qui peuvent être appréciables.
Bien, c'est parce que tout dépend de la direction que le Canadien va décider de prendre. Si on... C'est sûr que s'ils veulent vendre beaucoup, c'est correct, mais en même temps, il faut que tu aies des joueurs sur la glace, puis tu peux pas avoir des années pénibles avec des jeunes qui s'élèvent tout seuls. Alors, c'est toujours ça le danger. Tu vas être obligé probablement de garnir ça avec des joueurs autonomes, puis c'est toujours la même chose. Tu peux aller chercher des ailiers comme tu veux, mais si tu n'as pas les centres nécessaire pour être capable de performer, pour être capable de protéger Suzuki et puis d'autres, pour jouer contre les meilleures lignes, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Alors, c'est la même chose à la défensive. Si tu échanges un gars comme Chiarot, tu vas avoir des choix, sauf qu'après ça, tu le remplaces, parce que sinon, des gars comme Romanov et tout ça, ça se développe pas, parce qu'ils sont pas entourés. On le voit cette année, il y a des gars qui sont complètement étouffés. Alors, c'est de réussir à avoir le meilleur mix possible pour avoir des jeunes qui se développent, qui sont bien entourés, avec des intangibles sains pour que, justement, on vive pas des années comme Edmonton a vécu pendant des millénaires, même si on a des bons choix au repêchage. Alors, faut quand je regarde la liste, évidemment, c'est toujours la même chose. On parle toujours de ta ligne de centre qui est prioritaire, parce que si t'as pas ça, tout le reste compte pas vraiment. Donc, ton gardien de but, évidemment, si Carey Price revient en forme et tout ça, ben, c'est réglé. Mais par contre, si Chiarot s'en va, ça veut dire qu'on retombe encore à deux défenseurs dans le top 4. Alors, t'as beau garder ça de n'importe qui, tu t'en tires pas avec ça. Alors, puis ce qui arrive aujourd'hui, on le sait, là, okay, l'offensive est basée sur les défenseurs. On oublie toujours ça, là, parce qu'on pense comme avant, mais c'est plus ça, là. Les défenseurs, c'est eux qui commencent le jeu, c'est eux qui le transitionnent, ils sautent dans l'attaque, on leur demande des permutations sur l'offensive, une activation partout sur la glace. Alors, si t'as pas des défenseurs capable d'appuyer cette attaque-là, de transitionner, pas d'acte, même si on se fait. Alors, tu vois, la défensive, ça, c'est dans le filet, pas la défensive, c'est mortel. Top 4, ton gardien de but, tu ne t'en tires pas sans ça. Alors, oui, si tu veux changer des gars pour avoir des choix, c'est une chose, mais il faut absolument que tu puisses les remplacer.
Oui, oui. Je regarde les centres, Guy, justement, là. Il y en a un dont on commence à parler. Es-tu un fan de Kadri, toi, Nazem Kadri, dernière année de contrat Colorado? C'est sûr qu'il a 31 ans. Je parle pas là pour du long terme, mais. Ça n'a pas l'air d'être allumé à Tanasiu. Tu sais, je veux pas commencer à toutes les nommer, mais je veux dire, c'est-tu plus un profil
non,
ou des noms? Hein?
Là, j'y allais plutôt que des noms. J'y allais évidemment par position. C'est pour ça, gardien de but, on devrait être correct. Mais ouais, à la défensive, ça va être difficile. Là. Si tu es sûr que tu es capable d'avoir un latent, ben pendant une certaine année, pendant que certains individus vont pouvoir se développer, pendant que tu as le temps de voir ce que tu peux aller chercher, c'est clair que ça serait énorme. Mais tu sais, si tu perds Chiarot, tu rends le temps, il t'en manque quand même un autre dans ton top 4. Là.
Ouais.
De gars qui sont
si
pas
tu perds Chiarot, tu le comparais à Méthode
ben oui.
L'autre jour.
Ben oui, puis Chiarot joue à gauche.
Ça t'a fait mal quand t'as perdu Méthode, toi, Guy, hein, Ottawa?
Mal, désastreux. Désastreux.
C'est même pour dire, hein?
Pourtant, c'était pas une vedette, puis tout ça, mais c'est pas ça. C'est parce que les vrais top 4, peu importe le rôle, que ce soit un top 4 qui est défensif, que ce soit un top 4 qui est offensif, les minutes que ça demande, les exigences des top 4, écoute, ça ne se remplace pas point à la ligne. Alors, c'est pas une question de points. C'est être capable de jouer le nombre de minutes-là contre la qualité de joueur des adversaires. Et tu peux pas manufacturer ça sur le coin de la rue. Tu peux pas espérer que ton jeune est capable quand il l'est pas. Tu peux pas étouffer quelqu'un qui est pas capable de faire ça juste parce que toi, tu veux qu'il soit capable. Ils sont pas capables. Pointe à la ligne. Alors, tu hypothèques ton année complètement avec ça. Alors, tu sais, moi, je l'ai vécu. Même chose avec Tempa. Après la première année, Olun, qui était vraiment probablement à part Edmund, qui était tout jeune, il avait 19 ans, c'était notre seul vrai gars top 4, puis on l'a perdu parce que son jeu était fini. Mais après, c'était fini, là, c'était mortel. Là. Puis aussi, il y avait des intangibles. Alors, tu sais, je l'ai vécu, là. Je sais c'est quoi, ça ne se rend place pas. Là. C'est
pensez-y bien quand tu as laissé un parler. T'sais, je ne veux pas relancer Dano, mais quand tu décides, OK, on le laisse aller, c'est correct, on peut pas. C'est correct, regarde, tu te prends la décision. Mais même affaire avec Chiarot, puis avec quiconque tu laisses partir, c'est la gestion des actifs, là, tu sais.
Ben oui, parce que oui, on est d'accord. Maintenant, on dit on payera pas tel gars tant, ça n'a pas de bon sens, puis on payera pas tel autre, puis lui, c'est pas une vedette. Oui. Fait que là, on décide, on les paye pas, puis là, ils s'en vont. Mais c'est parce que le problème, c'est que tu les remplaces par moins bon la plupart du temps. Moins cher, d'accord, mais moins bon. Fait que t'es pas plus avancé.
Surtout si le pipeline fournit pas, Guy. Tu sais, si le pipeline fournit, c'est pas pire, là, tu sais.
Ben oui, sauf que ton pipeline, justement, il faut que tu te prévois d'avance que c'est possible que le jeune ne soit pas prêt, pas l'inverse. Moi, c'est pas compliqué. Quand tu fais des choix d'espérance, tu te mets dans le trouble. Faut que tu fasses des choix de certitude. C'est-à-dire que tu sais que le joueur est prêt, tu l'as testé, il est prêt, parfait, tu peux le mettre sur ton alignement. Alors là, t'es certain que t'as un alignement à Ligue nationale, tu seras pas obligé de descendre dans la Ligue américaine. Mais si le jeune n'est pas prêt, ben toi, t'as pas été chercher d'autres agents libres. Ça veut dire que le jeune, t'es obligé de le descendre. Puis il est remplacé par qui? Il est remplacé par un autre gars de Ligue américaine qui est pas vraiment un gars de Ligue nationale. Puis là, tu peux pas aller chercher ça au début de l'année. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses bien attention. Faut vraiment que t'évalues où sont rendus tes gars. Fait que tu sais, il y en a qui, tu sais, comme là, on le voit à Caulfield, il est pas prêt pour ce qui se passe en ce moment. Et avec Suzuki, ben depuis que Caulfield est revenu, ben Suzuki est perdu. Tu sais, Suzuki, là, il y avait 9 points en 8 matchs. 4 buts 5 passes, 2 buts gagnants avant que Caulfield arrive. Depuis que Caulfield est là, je pense que c'est comme un point en un assist en 16 matchs ou 17 matchs. Puis les 9 derniers matchs, il me semble que c'était une passe en 9 derniers matchs, moins 7.
On s'entête à les garder ensemble? Je veux dire, je comprends qu'il y a des blessés, là, puis maintenant on va le descendre.
Ça,
mais...
je rentrais pas là-dedans, mais une chose est sûre, c'est que il faut à un moment donné, dans tes décisions de développement, tu peux pas sauver tout le monde. Là, en ce moment, je pense que c'est une priorité d'essayer de sauver Suzuki, là, parce que là, t'es en train de perdre les deux, là.
Oh, là, c'est gros ce que tu dis là, Guy, là. Quand tu parles de sauver, oui, mais... là, t'en as-tu vu des équipes brûler des joueurs?
Ben c'est sûr, absolument. Je l'ai vécu, je l'ai fait, je l'ai subi, je l'ai vu ailleurs, je l'ai vu chez nous, tu sais. Puis là, ce qui arrive, c'est que, par exemple, un gars comme Paling, lui, je l'avais dit il y a quelques temps, lui, il est assis sa clôture. Tu sais, tu sais pas de quel bord il allait tomber, à gauche, à droite, es-tu prêt, es-tu pas prêt, puis lui, tu lui donnes une chance, oups,
oui.
Il démontre du bien. Puis là, ben, là, tu peux y en donner un petit peu plus. Puis après ça, il est capable d'en marcher plus, tu en donnes un petit peu plus. C'est un peu comme un enfant, un bébé, tu lui donneras pas du steak en partant, là. Tu donnes pas de l'homme, puis c'est capable d'assimiler. Ben, du lait au début, ben, c'est pas de l'homme, puis après ça, du steak, si t'es capable. Mais c'est graduel, mais il va te démontrer s'il progresse. S'il progresse pas après X temps, ben, tu renvoies-le. Mais la différence, c'est que Paling, il a été payé le prix dans la ligne américaine. Il a été, vive l'humilité, puis ce qu'on appelle le grind de la ligne américaine, c'est la difficulté, puis toute l'adversité que la ligne américaine représente pour mériter de monter.
Parce la que culture du mérite.
Ben oui, parce que quand tu te fais donner quelque chose dans la vie, ça n'a jamais la même valeur que quand tu l'as mérité avec de l'effort, puis de la patience, puis de l'endurance, puis de la persévérance, c'est clair. Fait que tu valorises ça, puis tu le sais, puis tu veux plus jamais revenir où tu étais avant, parce que tu sais comment difficile que c'est. Alors, mais donc, tu l'as mérité. Alors, à la défense, Romanov nous prouve tranquillement qu'il n'y a pas d'affaire dans la ligne américaine. Moi, c'est ce que je pensais, mais là, il a calmé son jeu, puis là, tranquillement, on l'a, mais il faut faire attention. Si tu en donnes trop, tu vas leur perdre, tu sais. Fait que c'est une question. Alors, c'est pour ça que c'est toujours du cas par cas. Suzuki, c'est un joueur de la Ligue nationale maintenant, mais qui est obligé de traîner un jeune qui n'est pas prêt. Fait que là, c'est pour ça qu'il étouffe le jeune, là.
Ça le fait mal paraître, n'est-ce pas, parce que c'est ça?
C'est clair. Alors, lui, il a besoin d'être bien entouré. Alors, Paling, lui, bon, ben, on continue de voir où il en est, parce qu'il est entre les deux. Puis pour moi, Romanov, ben, il est en train de montrer qu'il n'est pas juste entre les deux. Il a sa place là, si on le gère bien. Alors, c'est toujours du cas par cas. C'est pour ça que j'aime pas quand on dit « les jeunes ». On met tout le monde dans le même bateau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux avoir des gars qui sont extrêmement prêts. C'est un jeune exemple. J'avais eu Dana Tyrell qui est arrivé. Il était supposé dans l'année américaine. Puis il a joué sur ma 4 tout de suite en partant à tempo. Puis non seulement ça, il a joué contre des meilleurs toute l'année. Puis pourtant, c'était pas un grand joueur du talent, tout ça. Mais il était prêt à sa vitesse, sa maturité. Il était capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, puis ainsi de suite. T'sais, que ce soit là ou dans le junior. J'ai eu Sean Couturier à 15 ans dans le junior. Puis je le faisais jouer contre la meilleure ligne adverse.
Fait que les dans un rôle défensif, si le gars est capable de le prendre, c'est plus facile de le rentrer. Peut-être, Guy, s'il est capable de faire la job, évidemment. Là. Il n'y a pas de pression de produire, non?
Ben, c'est sûr que quand tu as la pression de produire, c'est toujours plus difficile. Mais des fois, tu as la pression de produire, mais tu es très bien entouré. Alors, tu vas te retrouver des fois dans une équipe où tu es un jeune qui n'était pas nécessairement tout à fait prêt, mais parce qu'il joue avec des joueurs exceptionnels qui sont. Tu sais, si tu arrives, tu rentres un jeune qui joue avec Bergeron ou Jonathan Toews avant qu'il soit malade et tout ça. Ben, ces gars-là, ils ont une chance de pouvoir prendre le temps de s'adapter au calibre. Mais le même joueur, dans un autre contexte, avec les mêmes atouts, ne serait pas capable, ce ne serait pas un bon environnement. Pourtant, c'est la même ligne nationale. Oui, mais c'est pas le même contexte. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que quand tu penses au développement de tes jeunes, il faut que tu penses à comment tu vas les protéger, comment tu vas mettre une assurance sur ton investissement. Là. C'est un peu comme en business, finalement. Là.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que, oui, c'est bien beau dire, on va faire des échanges, on va virer ça à l'envers, on va aller chercher ci, on va chercher des choix, ici, puis ça. Oui, mais tu vas quand même avoir à mettre une équipe sur la glace l'année prochaine.
Puis on est en après-pandémie, là, c'est pas facile économiquement, là, tu sais, te lancer. C'est pour ça, moi je crois qu'il faut je crois à ce que tu disais hier, là, je suis totalement d'accord avec ça. J'ai une question qui touche, qui s'éloigne pas complètement de la conversation qui est en cours, mais je bifurque un peu ça. Tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance des défenseurs, les défenseurs mobiles, puis là, on a un peu de recul, puis c'est pas de jouer au gérant d'estrade après les faits, là, mais je sais pas quelle était ton idée au moment du repêchage de 2018. Puis avec ce que l'on sait aujourd'hui, si tu avais le choix entre Kotkaniemi, Tkachuk et Quinn Hughes, qui est un défenseur à caractère offensif, 113 points en 151 matchs, là, c'est quand même très, très bon pour un défenseur. Aurais-tu été attiré par Hughes ou par l'attaquant de caractère ou le centre potentiel?
Ben moi j'ai toujours la même philosophie. Là. Tu prends le meilleur joueur disponible, peu importe la position.
C'était qui à ce moment-là, selon toi?
Ben, c'est parce que moi, je suis un friand des intangibles, puis là, je suis biaisé parce que j'ai coaché Tkachuk. Fait que je pouvais pas, ce serait une menterie, ce serait prétentieux de ma part de dire qu'à cette époque-là, je savais qui était le meilleur, puis je savais qui j'aurais pris. Ça, là, c'est toujours souvent du second guessing, c'est du Monday morning quarterback là, après la game. Là.
Mais il était prêt. Tout le monde disait qu'il était prêt, pas mal prêt quand il est arrivé. Non, Guy? Moi, en tout cas, il y a du monde qui disait NHL ready.
Ouais, il y en a qui disaient ça, mais par contre, il n'était pas NHL ready en termes de vitesse à ce moment-là. Fait que, tu sais, il était tout. Chaque individu, il y a toujours des pour et des contre. Puis, c'est très rare que tu te tromperas pas. La vérité, là, t'as toujours des surprises. Pourquoi? Parce que c'est pas des bons du trésor, puis c'est pas des investissements sûrs à X pourcentage. Là, c'est des individus dans des contextes. Alors, des humains qui ont leur façon de voir les choses, qui ont leur background, qui ont leur type d'apprentissage avec leur personnalité et conjointement dans un contexte là, fait que tu sais le même individu comme j'ai dit tantôt qu'il y a certains atouts, tu le mets dans un autre contexte puis c'est un résultat complètement différent. Pourtant c'est le même individu, fait que tu sais t'as le côté mental, émotionnel, mais t'as le côté circonstanciel qui est en train de prouver en psychologie maintenant des fois qui est encore plus important que tout le reste. Alors c'est pour ça que si tu me demandes, c'est sûr que moi j'ai eu Tkachuk, moi j'étais un grand fan des intangibles. Pourquoi? Parce que ces individus-là ne font pas juste amener leur performance, ils rayonnent sur les autres, donc ont un impact sur la performance des autres. Donc, il faut faire attention. Des fois, on regarde les points de certains individus et on calcule leur rapport juste avec ça. Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que tu peux avoir des fois un gars qui a 40 points, mais que c'est un leader, c'est un travaillant, c'est un gars qui inspire les autres, c'est un gars qui rallie les autres, puis avec toutes sortes d'intangibles, donc aide à ton vestiaire et tout ça. Et comparativement à un autre gars que lui fait 60 points, puis c'est une pomme pourrite, puis lui, c'est le contraire, il détruit ta chambre. Fait que là, tu gagnes jamais avec ça, mais pourtant, tu regardes sur papier, ben lui, meilleur que lui, non. Tu vas prendre le gars de 40 points. Puis ça, souvent, avec l'équipe Canada, c'est des raisonnements, tu sais, pour y avoir été souvent à tous les niveaux. C'est les raisonnements que tu fais continuellement, surtout quand tu as des événements courts. Tu n'as pas le temps d'avoir des individus qui ont des problèmes d'attitude, d'éthique de travail et de discipline, même s'il y a un paquet de points. Là. C'est pour ça que des gars, des fois, tu les gardes pas. Parce qu'ils font un paquet de points, ils ont plein de talent, sauf qu'ils vont ils vont abaisser ton équipe, ils vont détruire ta culture, puis t'as pas le temps là, dans des courts tournois, mais puis même dans une saison nationale, c'est la même chose. Là. C'est pour ça que souvent, il y a des gars qui passent d'une équipe à l'autre, extrêmement productifs. Tu dis, ben voyons donc, comment ça se fait qu'ils passent d'une équipe à l'autre de même? Ben regarde, c'est toujours la même affaire, mais c'est pas dit publiquement. C'est et ou l'attitude,
le travail,
puis la discipline. Moi, je rentrerai pas dans les noms. C'est toujours ces mêmes trois critères-là, finalement. Ouais. Alors, il faut faire attention. T'sais, c'est comme je dis toujours, Lekkonen n'allait pas l'évaluer avec ses points.
Ben non.
Lekkonen, c'est un récupérateur de rondelles exceptionnel. C'est un gars qui est premier sa rondelle. C'est un gars qui se présente à tous les matchs.
Je l'ai comparé à Tom Pyatt. Tu as coaché Tom Pyatt. Ce n'est pas des joueurs pareils, mais c'est des gars que les coachs aiment, là, c'est sûr.
Oui, ben oui, parce que c'est des gars sur qui tu peux te fier à tous les entraînements et à tous les matchs. Et c'est des gens qui inspirent les autres. Parce que quand tu vois ces gars-là travailler à un moment donné, tu n'as pas le choix de travailler comme ça. Et quand tu veux réveiller ton équipe, c'est avec des gars comme ça. Quand tu veux que ton équipe soit plus fiable, c'est avec des gars comme ça. Quand tu as des gars qui s'en vont filer, tu sais, tout récemment, je n'ai pas vérifié le dernier match ou le match d'avant, mais il y avait comme, je pense, 8 points ou 9 points, 8 matchs, une affaire comme ça. Puis tu sais, c'est la même chose avec Evan, puis Chara, c'est pareil. C'est probablement les trois seuls gars depuis le début de l'année qu'on peut considérer comme trois gars qui ont été constants. Dans leurs atouts, dans ce qu'eux autres sont capables d'amener. Donc, c'est une forme de leadership. C'est comme ça que tu acquiers la constance. Tu peux pas dire on est une équipe constante quand tu as trois joueurs qui sont constants dans leurs atouts. Tu sais, pour avoir quelque chose de collectivement constant, il faut que tu aies des gars individuellement constants.
Ben oui.
Alors, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ces gars-là sont importants. Tu sais, puis tu en as d'autres avec d'autres noms qui ont plus de talent, mais qui ont autant d'éthique de travail. Tu sais, c'est Nick Crosby, là, même s'il n'y a pas de points un match, là.
Ben oui.
Il y a un impact sur tout le monde pareil. Et c'est des Jonathan Taze, des Bergeron, des Kopitar, des gars comme ça. C'est pas juste des bons joueurs, c'est pas juste des gars qui font des points, c'est des gars capables d'apprendre la pression, c'est des gars qui vont rendre les autres meilleurs, c'est des gars qui vont pousser les autres, qui vont tirer les autres, qui vont supporter les autres. Écoute, ça, c'est un apport inestimable. Alors ça, il faut calculer ça quand tu repêches des individus. Ça fait partie de ton évaluation. Alors oui, un gars comme Tkachuk, moi, c'est le meilleur, je te dirais, le meilleur jeune que j'ai eu en termes de d'intangible, puis de leadership, des relations, de comment il se comporte hors glace, sur la glace, en éthique de travail, en discipline, en attitude. Depuis Crosby, je parle en termes d'un jeune qui a ces atouts-là, aussi jeune que ça.
Mm-hmm.
Moi, le dernier que j'avais vu personnellement avoir ça, là, c'était Sidney Crosby. Je dis pas que lui, c'est Sidney Crosby.
Non, c'est pas le même.
Je dis qu'en termes d'intangible, oui. C'était dans le même type de catégorie d'impact immédiat, de maturité. Tu sais, Sidney à 16 ans, on dirait qu'on parlait d'un gars de 30 ans. C'est aussi simple que ça. Ben, Tkachuk, même affaire. Écoute, tu l'as vu dans le camp d'entraînement.
J'utilisais l'exemple que tu disais de Crosby l'autre fois. Là, je comptais ça à mon deuxième. Là, lui, il a 17 ans. J'en ai 30, mais je disais, tu sais, Crosby, lui, il voulait pas de blonde, il voulait pas boire de boisson, il voulait pas da-da-da-da. Là, j'ai compté ça. Tu sais, c'est drôle. Tu sais, les jeunes, tu dis ça aux jeunes d'aujourd'hui. Tu sais, c'est comme ça. Puis regarde, il a atteint ses objectifs. Tu sais, c'est un beau modèle. Tu sais, c'est un méchant beau modèle. Là. Mais il est rigide. Puis, mais tu sais, il a fait ce qu'il fallait pour atteindre ce qu'il voulait. Puis les bottines ont suivi Babine.
Ben, tu vas toujours avoir le résultat de la quantité de tes sacrifices. C'est aussi simple que ça. Plus tu sacrifies, plus tu as des résultats.
C'est pas juste voir. C'est pas payling, ça. Tu finis toutes tes conférences de même, Guy? Non? C'est une bonne idée.
J'en ai différentes conférences, là, mais ouais, ben moi, c'est toujours une question de mobilisation là, dans mes conférences.
Oui.
Mobilisation du leadership, des individus et des groupes. Alors ça, c'est ce qui m'allume dans la vie.
Ben, en tout cas, tu mobilises pas mal d'auditeurs et d'auditrices, ça, je vais te le dire. Merci beaucoup, Guy, encore une fois. Je te souhaite... on se reparle la semaine prochaine. À moins qu'il embauche un DG vendredi puis qu'on t'appelle en émission spéciale pour commenter, sait-on jamais, mais je pense pas que ça va
aller. Mario, commence pas, Mario.
Hey! Salut, mon Guy. Bonne fin de soirée.
Salut.
Bye-bye.
Bonne soirée. Bye-bye.
Bye.